Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Emmanuel Ecoccia, auteur d'un essai époustouflant intitulé « La vie des plantes, une métaphysique du mélange » aux éditions Rivage.
Des 14 à 19 ans, j'étais l'élève dans un lycée agricole des Provences, isolé dans la campagne de l'Italie centrale. J'y étais pour apprendre un vrai métier. Ainsi, au lieu de me consacrer à l'étude des langues classiques, de la littérature, de l'histoire et des mathématiques, comme tous mes amis, j'ai passé mon adolescence dans des livres de botanique, de pathologie végétale, de chimie agraire, d'exploitation maraîchère et d'entomologie. Les plantes, leurs besoins et leurs maladies étaient les objets privilégiés des toutes et toutes dans cette école. Cette exposition quotidienne et prolongée à des êtres initialement si éloignés de moi a marqué de manière définitive mon regard sur le monde. Ce livre est la tentative de ressusciter les idées nées de ces 5 années de contemplation, de leur nature, de leur silence, de leur apparente indifférence à tout ce qu'on appelle culture.
Wi-Fi's and wells, wires and bound.
Bonjour Emmanuel Ecoccia.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci beaucoup.
Je suis très heureuse de vous y accueillir. Alors rien de végétal dans cette émission, si ce n'est le début. Je ne sais pas si vous avez reconnu le premier orchestre végétal de Vienne.
Wow.
En hommage à votre livre, donc La vie des plantes, une métaphysique du mélange. C'est un ouvrage incroyable, tant par le fond que par la forme. Vous avez une écriture extrêmement précise et imagée en même temps. Et votre sujet est à la fois assez évident, la vie des plantes, simple à saisir et en même temps complètement inexploré. Quelque chose de vraiment d'aventurier, de subversif dans le choix de ce sujet même. Et la démarche est à l'image de ce sujet. Vous avez lu le prologue de votre livre. Vous dites que ce livre est la tentative de ressusciter les idées nées de 5 années d'études dans un lycée agricole de province et que ces 5 années d'études ont été 5 années de contemplation de la nature, du silence, de leur apparente indifférence à tout ce qu'on appelle culture, comme si en fait vous vous placiez d'emblée du côté des plantes et pas du côté de l'homme que vous êtes qui regarde les plantes.
Oui, c'est vrai, j'y avais jamais pensé en effet en écrivant les livres, mais comme c'est un livre très très lié à cette expérience qui était en effet une expérience aussi d'isolement social et culturel profonde dans l'Italie d'il y a 20 ans, car maintenant c'est devenu un sujet à cause de la renaissance de l'écologie, c'est un sujet à nouveau à la mode, donc il y a plein de gens qui font ces genres d'écoles, il y a plein de gens en Italie qui s'inscrivent aux facs de sciences agraires, mais à cette époque-là, c'était un choix d'isolement radical, tout d'abord géographique, car les écoles étaient aux marges de la campagne, en fait, donc pas en ville, et aussi sociale et culturelle, c'était un peu une marque d'exclusion profonde. Donc peut-être c'est à cause de ça que, de toute manière, cette marque d'exclusion, cette idée auto-engendrée de ne pas appartenir au royaume de la culture a toujours été là chez moi. Je me suis toujours considéré, même si après j'ai fait des études de philosophie, j'ai appris seul les latins et les grecs, mais je suis jamais arrivé à me considérer comme une part intégrante de la vraie culture avec C majuscule Et c'est probablement à cause de cela que le choix de se placer du côté des plantes est venu comme spontané.
D'ailleurs, vous citez dès les premières pages, vous parlez du snobisme métaphysique qui définit notre culture et qui fait que nous n'avons jamais pris les plantes au sérieux. Vous évoquez l'écologie, c'est pas du tout un livre d'écologie au sens politique et militant du terme, c'est une métaphysique à proprement parler des plantes.
Tout à fait, oui, tout à fait. Disons qu'en réalité, dans l'Antiquité, dans les Moyen-Âge, jusqu'à les premiers âges modernes, les plantes ont été au centre de la réflexion philosophique, métaphysique, médicale, technique, jusqu'à faire de la plante, j'en parle un peu dans les livres, mais le paradigme de ce qu'on appelle raison, rationalité. Donc la plante a été par excellence l'incarnation d'un ordre rationnel. Et c'est sûrement à l'âge moderne, depuis 2-3 siècles, qu'ils ont totalement disparu du domaine des sciences humaines et sociales, mais avec le même geste qui a voulu isoler l'homme et la société du reste du monde et du reste des êtres. Donc ce reste des êtres, et notamment les êtres les plus éloignés des hommes, ont été relégués à d'autres formes de savoir. Et ces mouvements d'exclusion réciproque est d'autant plus paradoxal que ça a eu lieu à peu près au même moment où la science nous a obligés à reconnaître que l'homme est une partie intégrante du monde naturel. Mais cette séparation reste quand même très forte, même dans les études universitaires. Ce qui m'a toujours frappé en provenant d'une école de ce type-là, c'est à quel point, même si tout le monde se reconnaît comme darwinien, même si tout le monde reconnaît que l'homme est un animal, en fait, la séparation entre sciences naturelles et sciences humaines est encore en partie intégrante, et même c'est le fondement de toute architecture universitaire, savante, et c'est un fondement qui nie ce que Darwin a dit. Car si l'homme est un animal, donc il n'y a pas de séparation entre sciences naturelles et sciences humaines, et donc les sciences humaines sont une part de la zoologie, par exemple. Et moi, j'enseigne dans une école de sciences sociales.
À l'EHESS, oui.
Et on devrait appeler cette école l'école des sciences zoologiques, par exemple. Si on était vraiment cohérente avec... Et malgré cela, il reste ces soupçons aussi qui fait que c'est impossible, c'est très difficile de mettre ensemble la botanique et la littérature, la zoologie et la philosophie, ou l'informatique et la météorologie.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune différence, à proprement parler, entre la plante et l'animal que nous sommes? Ou est-ce que ça veut dire que les plantes d'un côté et nous de l'autre sommes traversées par un même flux, par un même souffle, pour reprendre un terme
exactement
qui vous est cher?
Oui, non, c'est plutôt l'idée du livre, mais ce qui reflète un peu une attitude, une espèce de regard primitif qui n'a rien de savant ni de acquis, c'est l'idée que malgré les différences évidentes entre une plante, un homme, un tigre, etc., il y a quelque chose qui nous partageons et qui nous traverse. Et le livre est une réflexion sur c'est quelque chose qui nous traverse et que j'ai voulu appeler souffle en suivant une tradition très très ancienne.
Justement, cette tradition, quand on parle du souffle, on peut penser à Aristote qui identifie l'âme au souffle. Il y a toute une forme de théorie du souffle qui traverse l'existence elle-même. Ça remonte jusqu'à Bergson. On pense beaucoup au vitalisme de Bergson dans votre ouvrage. Ce sont des références que vous revendiquez?
Tout à fait, absolument. Bergson, je ne sais pas si c'est cité, mais ça a été une lecture très, très importante. D'autant plus que peut-être c'est les seuls grands philosophes, les derniers philosophes qui a livré une cosmologie à part entière dans la modernité et qui s'est confronté de manière radicale avec la zoologie et avec la biologie de son temps. Donc c'est absolument un point absolument fondamental dans ma formation, dans ma pensée, même si il ne m'arrive pas de le citer.
Mais c'est vrai qu'il est présent, en tout cas, c'est le système de pensée, ce système il y a, qui se rapproche le plus du vôtre, parce que, je le répète, vous proposez ici une réflexion qui paraît absolument inédite, qui peut évoquer d'autres philosophes, mais qui c'est vraiment votre pensée, votre thèse que vous défendez, hein, cette métaphysique du mélange. Alors, venons-y. Vous dites, si c'est aux plantes qu'il faut demander ce qu'est le monde, c'est parce que ce sont elles qui font monde. C'est-à-dire que les plantes ne sont pas un sujet d'étude, un objet de recherche, mais elles sont à l'origine même de ce que nous appelons le monde, parce qu'elles font de manière active le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire deux choses, et de manière littérale. Tout d'abord, les plantes font le monde car ils ont été à l'origine du monde que nous habitons, c'est-à-dire c'est grâce à l'occupation par les plantes de la terre ferme qu'il y a eu ce qu'on appelle la grande catastrophe de l'oxygène, c'est-à-dire ce radical changement de la composition de l'atmosphère qui a transformé l'atmosphère d'un mélange gazeux de, où l'oxygène était très peu présent à une enveloppe dominée par la présence de l'oxygène et qui donc a rendu possible la diffusion et la reproduction des animaux supérieurs qui sont tous aérobies, c'est-à-dire qui ont tous besoin de l'oxygène pour leur métabolisme. Donc les plantes ont produit cette atmosphère et c'est grâce aux plantes que cette atmosphère peut se renouveler quotidiennement. Donc vivre pour tout être humain, c'est de fait être immergé dans cet univers que est créé, produit constamment, instant après instant, par la vie des plantes. Et c'est d'autant plus paradoxal que l'oxygène n'est pas une, comment dire, c'est un sous-produit de leur métabolisme. C'est comme si c'est un détritus. Donc nous ingérons à tout instant les détritus de la vie des plantes. Donc de ces points de vue, ils font notre monde. Et c'est aussi il y a un autre aspect qui fait que c'est aux plantes qu'il faut demander qu'est-ce que le monde. C'est que d'un point de vue anatomique, la plante construit son corps pour adhérer le plus possible au monde. En fait, à la différence de tout autre animal qui, même d'un point de vue embryologique, se constitue pour produire un espace intérieur, toute notre vie métabolique se passe à l'intérieur de notre corps, dans l'ensemble des organes qui sont enveloppés par notre peau. La plante construit son corps anatomiquement pour reproduire la surface et pour adhérer le plus possible au monde extérieur. Donc, de ce point de vue, c'est un être au monde beaucoup plus radical et beaucoup plus littéralement exposé que celui de n'importe quel animal.
Les plantes sont les vrais médiateurs. Elles sont les premiers yeux qui se sont posés et ouverts sur le monde. Elles sont le regard qui arrive à le percevoir dans toutes ses formes. Le monde est avant tout ce que les plantes ont su en faire. Ce sont elles qui ont fait notre monde, même si le statut de ce faire est bien différent de celui de toute autre activité des vivants. C'est donc aux plantes que ce livre va exposer la question de la nature du monde, son extension, sa consistance. Aussi, la tentation de refonder une cosmologie, la seule forme de philosophie qui puisse être considérée comme légitime, devra commencer par une exploration de la vie végétale. Nous poserons que le monde a la consistance d'une atmosphère et que ce sont les feuilles qui peuvent en témoigner. Nous demanderons aux racines d'expliquer la véritable nature de la terre. Enfin, c'est la fleur qui nous apprendra ce qu'est la rationalité, mesurée non plus comme capacité ou puissance universelle, mais comme force cosmique. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et pour ce chemin du vendredi, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe Emmanuel Coccia, qui publie La vie des plantes, une métaphysique du mélange, aux éditions Rivage. Ce que nous sommes en train d'écouter, ce vent qui fait grincer les branches des arbres, c'est une des musiques, car c'en est une qu'on a en tête en lisant votre livre, Emmanuel Coccia, tellement vos descriptions nous immergent, et vous tenez à cette immersion hein, dans ce monde végétal. Et j'ai lu la fin du premier chapitre où vous exposez ce qu'on dirait en langage scolaire votre plan, mais qui est en fait une espèce de parcours qui va non seulement prendre la plante au sérieux, mais partir de chacune de ses caractéristiques. Il y a une théorie de la feuille, des racines, de la fleur, et on apprend dans ces pages des choses absolument incroyables. La feuille, par exemple, pour commencer avec la feuille, la théorie que vous proposez de la feuille renverse complètement la conception qu'on se fait des plantes. C'est-à-dire que pour nous, la feuille est toujours quelque chose que l'on voit à la limite la partie visible de la plante, mais c'est pas non plus la fleur, donc c'est ce qu'il y a de moins intéressant. Or, la feuille est vraiment le lieu de ce mélange qui vous est cher. Alors, de quel mélange s'agit-il ?
Mais tout d'abord, l'idée que la feuille est la partie centrale et principale de l'être végétal, c'est une idée très ancienne. C'est Goethe, les premiers à l'avoir présentée, défendue, dans un texte qui a d'ailleurs qui a eu une importance énorme dans l'histoire de la biologie, mais aussi dans l'histoire de la littérature, de la culture en général. Et c'est une thèse qui, évidemment, est discutée, est soutenue ou pas, mais qui est encore valable pour certains des biologistes et l'idée, ou des botanistes.
Le texte, c'est la métamorphose de plantes.
Oui, tout à fait. Et l'idée de comment dire, l'idée de Goethe, c'est que et de la biologie contemporaine, c'est que la feuille est l'être fondamental, l'être et le paradigme de l'existence végétale, parce que c'est dans la feuille qu'il y a lieu les processus synthétiques, c'est-à-dire au fond ce qu'on doit principalement aux plantes, cette invention extraordinaire qui permet de transformer l'énergie solaire en matière. En fait, la photosynthèse fait ça et elle arrive à stocker la plus grande source d'énergie sur Terre, qui est la lumière solaire, et la traduire, la stocker, la traduire en masse chimique, en masse vivante. Et c'est ça qui, d'ailleurs, qui permet aux plantes, comme on disait avant, de faire monde, car les plantes sont les plus grandes productrices de masse vivante, de masse biologique, et ce sont la base de toute autre chaîne écologique. Et l'idée, c'est que c'est dans la feuille aussi qui s'est produit ou qui s'engendre les mélanges universels qu'on appelle atmosphère, car comme on a déjà dit, c'est grâce aux feuilles, et c'est grâce donc à ces organes d'exposition intégrale au temps atmosphérique et à l'air et au monde que s'est produit cet espace qu'on appelle atmosphère, qui est l'espace dans lequel tout se mélange avec tout. C'est-à-dire, c'est au fond le véritable noyau du monde, c'est ce qui nous permet d'être traversé par tous les restes, de traverser tous les restes. La preuve, c'est au fond ce qu'on fait à chaque fois qu'on respire, on y prête peu d'attention, mais d'une certaine manière, respirer signifie s'immerger dans les mondes, c'est parce qu'on est immergé dans l'air qui nous entoure, mais avec ce même geste, et dans la même dynamique, faire émerger les mondes à nous. C'est ça que j'appelle mélange, c'est-à-dire ces mouvements pour lesquels la matière qui nous entoure devient les contenus de notre corps et à l'inverse.
Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain.
Et après?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux?
Non.
T'en es sûr?
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors?
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère!
La vie n'a jamais abandonné l'espace fluide. Lorsque dans un temps immémorial elle a quitté la mer, elle a trouvé et créé autour d'elle un fluide aux caractéristiques, consistance, composition, nature, différentes. Avec la colonisation du monde terrestre, hors du milieu marin, le monde sec s'est transformé en un immense corps fluide qui permet à la grande majorité des vivants de vivre dans un rapport d'échange réciproque entre sujet et milieu. Nous ne sommes pas des habitants de la Terre, nous habitons l'atmosphère. Vous proposez une ontologie de l'atmosphère, Emmanuele Coccia, ce qui surprend en lisant votre livre, que vous substituez le terme d'atmosphère à celui plus habituel de monde, si bien qu'on comprend qu'il y a sans doute une nouvelle définition de l'atmosphère qui est donnée. Alors difficile de ne pas penser à l'Hôtel du Nord, le film de Marcel Carné, donc on entend ce dialogue rester très classique en France, hein, sur atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Et d'ailleurs, c'est pas sans lien avec ce que vous dites, parce que finalement, quand lui veut partir, Louis Jouvet veut prendre de la distance par rapport à Arletty, il lui dit, j'ai besoin de changer d'atmosphère, mon atmosphère c'est toi et tu m'étouffes. C'est ça, en fait, l'atmosphère, c'est ce mélange.
Tout à fait, mais même dans notre langage commun, lorsqu'on parle d'une atmosphère, de l'atmosphère d'un certain lieu, on veut exactement dessiner cette capacité des choses de se mélanger, tout en gardant leur nature et leur substance. Par exemple, si je dis maintenant que dans ces studios de Radio France, il y a une certaine atmosphère qui domine, je veux dire que tout se mélange avec tout et tout pénètre tout, tout en gardant sa nature, son identité, c'est-à-dire ce café-là, cette bouteille, cette étrange lumière qui nous dit lorsqu'il faut parler. Ils arrivent à produire quelque chose d'unitaire qui ne supprime pas notre identité. Et ainsi, dément, quand je vais me rappeler de ce lieu et de cette atmosphère, en pensant au gobelet de café, je peux penser tout de suite à cette lumière, à vous, à ces violets qui dominent, comme si tout était d'un tout, effectivement.
Est-ce que c'est différent d'une ambiance?
Non, c'est exactement la même chose. Même d'un point de vue sémantique et d'histoire des termes, ambiance, atmosphère appartient au même univers et dans plusieurs domaines. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition qui même français d'ailleurs, qui a essayé de faire de l'atmosphère et des propriétés atmosphériques de vivant un peu les signes de la vie au sens spirituel du terme. Et il y a d'ailleurs toute une tradition biologique qui remonte jusqu'à Lamarck, qui essayait de faire de l'atmosphère, c'est-à-dire de cet espace où tous les éléments de la Terre arrivent à se mélanger, à s'entremêler, et donc à faire monde, les véritables noyaux de ce qu'on appelle Terre ou notre planète. Et ça va jusqu'à Lovelock, les grands inventeurs de l'hypothèse de Gaïa, c'est-à-dire celui qui en premier a essayé avec une autre biologiste qui s'appelle Lynn Margulis, de dire que la planète Terre est quelque chose de vivant, qui est douée de vie. Les premiers articles où a défendu cette idée étaient un article sur les faits que l'atmosphère terrestre, comment dire, montre de caractères d'homéostase qui sont propres des êtres vivants. Et d'ailleurs, c'est même évident d'un point de vue comment dire, plus concret. Ce qui distingue la Terre de Mars, c'est le fait que la Terre a une atmosphère. Et nous pouvons habiter cette planète grâce à cette enveloppe où tout arrive véritablement à se mélanger avec tout physiquement et spirituellement.
Oui, vous dites que l'atmosphère est un lieu métaphysique dans lequel tout dépend de tout le reste.
Tout à fait. Et c'est exactement ce que Lovelock a essayé de démontrer. C'est exactement ce qu'aujourd'hui, on nous répète tous les temps lorsqu'on parle des effets de la pollution qui a eu lieu, par exemple, en Chine et qui détermine des effets climatiques ici ou en Afrique, etc. C'est curieux. En fait, on n'y réfléchit pas suffisamment sur l'effet que c'est grâce à ce qu'on appelle atmosphère que ce qui se passe en Chine peut avoir un effet sur notre vie ici ou ce qui se passe ici a une conséquence immédiate sur ce qui se passe aux États-Unis. Et d'ailleurs, même métaphoriquement, pour parler de la structure qui permet cette communication et cette diffusion, on emploie les mots atmosphère pour dire qu'il y a un espace de communication, de mélange, d'immersion réciproque des éléments qui, encore une fois, ne comportent pas leur fusion. Il y avait toute une...
C'est ça, c'est un mélange sans fusion.
Voilà. Il y avait, parce qu'on a parlé de la tradition philosophique qui fissait du souffle les noyaux de la vie ou
le principe d'animation.
Le principe d'animation, vous avez cité Aristote, mais la chose peut-être la plus intéressante de ce point de vue, c'était la tradition stoïcienne qui, à un moment, s'est posé cette question. Avait délivré, d'ailleurs, une théorie qui a été très, très critiquée dans l'Antiquité, qui, de l'autre côté, a été très importante, car, par exemple, c'est la théorie qui a permis aux chrétiens de penser la relation entre les trois personnes de la Trinité. Et c'était, justement, la théorie du mélange intégral. Et c'était une théorie très basique. C'est-à-dire, au fond, ils se sont demandé comment penser les mondes, comment penser la totalité des choses, il y a trois manières selon les stoïciens. Il y a tout d'abord, on peut penser les mondes comme un simple amas de choses qui sont séparées les unes des autres et qui sont ensemble juste dans l'essence d'une juxtaposition, comme un amas de sémences, un amas de cailloux, par exemple. Et donc, penser les mondes de cette manière signifierait penser que les mondes est simplement l'addition de moi, cette bouteille, la maison, les autres personnes, vous, etc. Mm. Et c'est pas une bonne manière de penser les mondes, car l'addition ou la juxtaposition n'arrive pas à comprendre ce qui se passe entre ces, ou arrive à nier ce qui se passe entre ces éléments. Une autre manière, c'est penser les mondes comme fusion intégrale, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est comme dans les cas du parfum. En fait, il y a des éléments, des ingrédients, des éléments originaires qui se fondent complètement pour créer quelque chose de nouveau, des différents, des éléments du départ. Et de cette manière, les mondes seraient une espèce de super objet, de surobjet qui naît de la fusion, c'est-à-dire de la destruction des éléments qui étaient à la base. Comme si, pour penser les mondes, il fallait nier le fait que moi, je suis différent du monde ou que vous êtes quand même une entité autonome avec une substance. Et la troisième manière, c'était l'idée du mélange intégral. Il disait, c'est la manière de penser une multiplicité qui arrive à s'unir, donc à être assez co-étendre, il disait, c'est-à-dire à occuper le même espace de manière telle que tout est immergé dans toutes les restes.
Ça, on le trouve même avant le stoïcisme. J'ai Anaxagore. Enfin,
oui, tout à fait. Tout à fait.
On trouve cette idée-là du mélange universel.
Exactement. Oui, tout à fait. Et ça, d'après les stoïciens, c'est la manière la plus efficace de penser les mondes. Et d'ailleurs, vous parlez d'Anaxagore. C'est exactement ce mélange entre Anaxagore et les stoïciens qui a permis de penser dans l'espace chrétien la Trinité. Comme une idée, les problèmes étaient les mêmes, c'est-à-dire comment penser une multiplicité sans arriver à sacrifier la forme et la substance des éléments qui composent cette multiplicité. Et de fait, à chaque fois qu'on essaie de penser les mondes, on essaie de penser ça, pas la somme des objets, comme aujourd'hui même, par exemple, quelqu'un comme Marcus Gabriel essaie de faire lorsqu'il dit...
Philosophe allemand contemporain,
tout à fait, qu'il essaie de dire que les mondes n'existent pas, car c'est impossible de les penser comme somme... additionnel de tous les éléments, qu'il y aura toujours un élément de plus, c'est-à-dire ce monde lui-même, qu'on ne pourra jamais ajouter à cette liste, ni comme un espace de fusion intégrale, car il y a une multiplicité véritable. Et la manière de penser cette multiplicité qu'on appelle monde, c'est l'idée du mélange. Car de fait, être monde signifie pouvoir être touché, traversé au sens physique et métaphysique par tous les restes, les faits que je vis. C'est-à-dire le fait que je suis un monde signifie de fait que je peux être traversé par votre voix, par la couleur de cette pièce, par les goûts du café, par la lumière du ciel et par tout ce qui arrive à me traverser d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire physiquement traverser mon corps comme l'air que je respire ou d'une manière intentionnelle ou sensible comme la lumière du ciel ou une idée, etc. Et c'est ça que je veux dire lorsque je parle du monde comme mélange. Le fait que, en fait, être monde signifie avoir cette ouverture qui permet à tout être d'être traversé et aussi de traverser tout.
Mais la question étant de savoir, est-ce que ce monde dont vous parlez, ou l'atmosphère, qui est en fait plus approprié que le terme de monde, hein, pour définir ce que vous voulez désigner, est-ce que c'est un monde commun ou est-ce que chacun a son monde? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une perspective plutôt leibnizienne où nous sommes autant de perspectives, de monades sur un monde dont nous faisons partie mais qui ne dépend pas de nous? Ou bien est-ce que c'est une forme de presque de solipsisme où chacun transporte son propre monde qui est en interaction avec le monde des autres, mais au fond nous n'avons aucune preuve que ce monde puisse jamais être commun? Quelle place faites-vous à ces entités qui composent le mélange qui engendre le monde?
Non, au contraire, c'est les contraires de la monade leibnizienne et les contraires du solipsisme, car l'idée, et c'est là que l'idée d'Anaxagore est importante, Anaxagore qui avait dit que pour penser les mélanges, il faut penser que tout est un tout. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette formule paradoxale exprime exactement les contraires de l'idée leibnizienne, c'est-à-dire exprime l'idée que pour être traversé par quelque chose, il faut que moi, je puisse la traverser. Donc, qu'avoir quelque chose en soi est possible seulement parce que ce qui est à moi est aussi le lieu par quoi je suis contenu. C'est-à-dire, au fond, qu'il y a une renversabilité perpétuelle du contenant et du contenu.
Mais, c'est-à-dire, mais pour affirmer ça, il faut avoir un point de vue surplombant, pour pouvoir sortir de soi, pour avoir une perspective globale.
Non, parce qu'il y a une expérience qui nous permet de voir ça de manière concrète et moins abstraite de ces formules que je viens de prononcer, c'est le souffle, en fait. À chaque fois qu'on respire, on ne s'en rend pas compte, mais on fait exactement, on est pris dans cette dynamique pour laquelle le lieu où nous sommes, c'est-à-dire l'air, devient les contenus, notre contenu. Donc nous devenons le lieu du lieu et nous sommes à la fois contenu et contenant, en fait. Les souffles, c'est exact, d'un point de vue métaphysique, c'est ça, c'est cette dynamique qui permet de renverser la topologie qui fait un monde. Et dire que donc le monde est atmosphère signifie dire que le monde est un souffle qui est la lettre, d'ailleurs, la théorie des stoïciens qui disait que le monde est l'unité du monde et le pneuma, c'est-à-dire le souffle, c'est-à-dire c'est même pas seulement une force, c'est un mouvement qui fait que toute chose contenue devient contenante et à l'inverse.
Il faut qu'on continue la lecture de votre livre, Emmanuel Ekotcha, parce qu'on est le temps file et on a encore beaucoup de choses à voir. Et j'aimerais, non, au contraire, vous excusez pas, mais c'est parce que j'aimerais donner à entendre d'autres chapitres qui sont absolument, absolument incroyables. Chapitre 10. Elles sont cachées et invisibles pour la grande majorité des organismes animaux qui se disputent la vedette sur les planches de la terre ferme. Enfoncées dans un monde cloisonné et cryptique, elles passent leur vie sans avoir le moindre soupçon de l'explosion de formes et d'événements qui bouillonnent entre terre et ciel. Ce sont les racines. Les racines sont les formes les plus énigmatiques du monde végétal. Leur corps est souvent infiniment grand, infiniment plus complexe que son jumeau aérien, celui que les plantes laissent apparaître à la lumière du jour. La surface totale du système racinaire d'un plant de seigle peut atteindre 400 mètres carrés, c'est-à-dire une surface 130 fois supérieure à celle du corps aérien. Et vous proposez ici ce qu'on pourrait appeler une forme de théorie des racines. Là, pour le coup, autant les plantes, on peut y penser, mais on peut trouver quand même des textes, hein, sur les plantes. Les feuilles, encore moins, mais là, je suis sûre qu'on peut trouver au moins des poèmes sur les feuilles. Mais alors, les racines?
Oui,
vraiment rien.
En vérité, un peu si, dans le sens qu'il y a toute une tradition qui va de Platon, Aristote, jusqu'à Darwin, jusqu'à quelques laboratoires de biologie, de botanique aujourd'hui, en Italie, en Allemagne, qui essaient de faire des racines, en fait, le véritable cerveau de plantes. D'ailleurs, il y a une réminiscence de ça dans les films de James Cameron, Avatar, où les racines, effectivement, sont les tissus nerveux du monde. Donc, il y a cette idée qui revient des racines comme cerveau. Mais les livres, dans les livres, j'insiste pas là-dessus, car la littérature immense est intéressante, etc. Il me semble juste que la racine soit un organe tout à fait énigmatique, tout d'abord, car il témoigne d'une espèce d'ambiguïté de caractère amphibie de l'existence végétale qui, au fond, a deux corps simultanément et occupe seul parmi les êtres vivants, deux espaces, deux milieux simultanément. C'est pas comme les amphibies qui peuvent passer d'un milieu à l'autre. Grâce aux racines, la plante est à la fois un organisme terrestre ou chtonien et aérien. Donc c'est cet aspect biface, même d'un point de vue d'extension, cette capacité. C'est comme si, en fait, avoir une racine, c'est comme si on avait à côté de tout organe, un organe qui irait dans la direction exactement opposée et contraire et qui poussait dans cette direction. Dans les chapitres sur la racine, il y a toute une réflexion aussi autour de l'héliocentrisme, car il me semble aussi que la racine prouve qu'en effet, la base, notre sol véritable n'est pas la terre, le sol terrestre, mais la lumière.
Ça, c'est très surprenant, parce que c'est dans ce que vous proposez comme théorie des racines que vous affirmez justement la volonté de vouloir substituer l'héliocentrisme au géocentrisme. Alors, la racine, c'est l'immersion dans le sol. Et c'est là où vous en faites le point de retournement, en fait, où il faut investir l'héliocentrisme davantage que le géocentrisme. Vous allez même jusqu'à affirmer dans ce chapitre que la source ultime de notre existence, c'est le ciel.
Tout à fait. Tout d'abord, il y a un constat que j'avais lu pour la première fois dans ce magnifique livre d'une autrice italienne qui s'appelle Anna Maria Ortiz, qui avait écrit un livre qui s'appelle Corpo Celeste, Corps Céleste, et qui dit une chose qu'on oublie toujours, en fait, depuis Copernic, on sait que la Terre est un corps céleste, en fait, et qu'il n'y a aucune opposition entre tout ça est le ciel. En fait, que tout ce qui nous entoure et que notre corps même est un fait céleste, en fait, que la Terre est matière céleste, que tout ce qui se passe sur elle est un événement, au fond, astronomique, car il n'y a aucune différence ni ontologique, ni physique, ni métaphysique entre ici et les restes du cosmos. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, à mon avis, on n'a jamais véritablement intégré, surtout dans ce qu'on appelle sciences humaines et sociales, les gestes coperniciens de mettre les soleils au centre de l'univers, car on reste des êtres ptolémaïques, obstinément ptolémaïques, on reste rattaché à la Terre, on continue à faire de la Terre les modèles de l'espace, on continue à vouloir faire de la géométrie, de la géologie, etc. Et on oublie que si notre vie est possible, c'est parce qu'il y a un astre qui nous fournit l'énergie nécessaire pour vivre et que tout ce qui est sur Terre n'est rien d'autre que une transformation de cette énergie. Et de ce point de vue, les plantes sont importantes car elles sont les véritables médiateurs cosmiques. Elles sont elles qui traduisent cette énergie solaire en masse vivante, pas juste végétale, et qui donc ont fait de la vie un laboratoire de production de matière solaire sur Terre, en fait. De fait, tout ce qui existe, toute la matière qui occupe la croûte terrestre n'est rien d'autre qu'une modification de cette énergie qui nous traverse et qui nous touche constamment, au moins 12 heures par jour.
Et vous allez jusqu'à dire même que l'écologie, n'est que le refus de l'uranologie, c'est qu'en clair, s'occuper d'écologie, prendre soin de cette terre et de la nature sur la terre, hein, c'est quand même le but de l'écologie, est une manière aussi de nous détourner de l'origine réelle qui est, voilà, selon vous, celle aussi des astres, du soleil, et pas simplement celle de la planète elle-même.
Oui, tout à fait. Là, c'est une touche polémique qui a causé quelques débats ou quelques dialogues avec d'autres personnes.
Difficile de dire de mal de l'écologie aujourd'hui.
Oui, hein. Oui, c'est un aspect. Et après, il y a toute cette volonté de revenir à la Terre, de penser Gaïa comme un espace d'exception, etc. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'écologie nous fait oublier que en fait, le fait que la Terre puisse héberger de la vie et puisse être notre lieu est un fait purement contingent, en fait, et que en tant que portion du ciel, tout espace terrestre a la tendance à redevenir inhabitable, en fait. Que l'inhabitable est l'essence du ciel et donc est l'essence du monde, de la Terre, en fait. Et que ça n'a aucun sens de penser, à mon avis, ou de parler de la Terre comme un endroit naturellement habitable, un endroit qui hébergerait par essence la vie, car ce n'est pas le cas, car par exemple la biodiversité qui occupe cette planète a été causée par une catastrophe de pollution. Donc aussi par rapport à tout ce qu'on écrit, on pense autour de l'Anthropocène, il faut toujours penser que c'est toujours une catastrophe qui a donné lieu à la multiplication de la vie et que qu'il y a évidemment à prendre compte des effets des vivants et qu'il y a évidemment à rendre possible notre vie sur cette terre, mais que cette terre, forcément, et par une tendance naturelle, comment dire, déviant toujours ou a la tendance à devenir inhabitable. Moi, c'est aussi, parce que ce sont des discours peut-être abstraits, mais c'est quelque chose qui, je suis un être très, très désordonné. Et j'ai vraiment du mal à établir l'ordre, c'est-à-dire, et j'ai du mal à m'imposer sur l'espace qui m'entoure. Au fond, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, une chose qui me frappe et qui m'a toujours frappé, c'est que nos habitations ont la tendance, si on n'intervient pas, à devenir inhabitables, en fait. Et que notre vie rend inhabitables ces espaces. Et ces mouvements-là, je pense, c'est pas un mouvement artificiel, et juste l'ordre des choses. En fait, le monde est par excellence un mouvement de suroccupation qui produit de l'inhabitabilité. Et si l'écologie a un sens, c'est parce que, justement, il faut intervenir.
Parce que c'est rassurant pour l'homme de donner l'illusion qu'il a le pouvoir sur son existence, celle de la planète, plutôt que d'accepter que la planète et lui-même dépendent de facteurs qui le dépassent largement.
Absolument, absolument, oui.
Un dernier point, Enfin, dernier, il y en aura encore plein d'autres, mais j'aimerais qu'on évoque ensemble le chapitre sur les fleurs.
Oui.
Parce que vous proposez, alors, quand ce que vous dites des fleurs, alors pour vous, les fleurs, c'est à la fois la raison et le sexe. C'est pareil.
Tout à fait.
Hein, oui. Donc, on peut penser alors à des exemples plus littéraires, le début de Sodome et Gomorre dans La Recherche du Temps Perdu, ou la séduction entre Jupien et le baron de Charlus est comparée par le narrateur au vol du bourdon qui vient féconder l'orchidée. Bon, là, on s'imagine, on voit bien comment la fleur peut être comparée à un sexe, mais à la raison. Pourquoi la fleur est la raison et pourquoi la raison est-elle le sexe? Vous avez 3 minutes.
Oh là là, c'est très peu, mais disons que il y a toute une tradition qui part encore une fois des stoïciens qui arrivent jusqu'à Schelling, qui a pensé en fait la raison, l'incarnation principale de la raison comme sémence en fait, c'est-à-dire au fond un but de matière qui arrive à développer quelque chose d'ordonné, de rationnel, d'elle-même, sans l'intervention de forces extérieures. Alors, c'est cette tradition-là qui a élaboré aussi l'idée de la fleur comme incarnation de la rationalité, car la fleur est exactement ce qui produit la sémence, c'est-à-dire ce qui produit ces ordres, ces buts de matière qui arrivent à produire d'elle-même quelque chose d'ordonné, rationnel, etc.
Et ça, c'est la sémence qui produit la fleur ou la fleur qui produit la sémence?
La fleur qui produit la sémence, en fait. Car c'est dans la fleur et ensuite dans les fruits que la sémence se produit. Et la fleur et non seulement ce qui produit la sémence, mais c'est l'organe sexuel par excellence. Il y a toute une tradition, notamment dans la biologie spéculative du 19e siècle, qui a fait ces liens, donc du coup, selon lesquels l'organe de la sexualité est aussi l'organe d'incarnation matérielle de la rationalité par excellence. Et c'est une idée très belle, car penser la rationalité comme sexualité, et à l'inverse, penser la sexualité comme rationalité, nous permet de penser la rationalité non pas comme l'organe ou la répétition du même, comme les retours de quelque chose autour d'elle-même, mais l'organe qui nous permet de nous ouvrir un monde, car une fleur et en général un organe sexuel, c'est un organe d'ouverture, un organe de mélange. Grâce au sexe, tout être doit se mélanger au monde, et pas juste aux autres individus de la même espèce, car tout acte sexuel présuppose, dans le cas des fleurs, les vents, les insectes, mais même dans l'homme, il faut une atmosphère, il faut du vent, il faut donc il faut s'émélanger au monde pour se reproduire, c'est-à-dire pour prolonger notre propre existence. Autour de et à l'inverse, la sexualité n'est pas, comme on nous a enseigné, l'ordre de l'infrarationnel, de quelque chose qu'on voit pas, etc. C'est au contraire la manière la plus rationnelle que la vie a inventée pour à la fois se reproduire, se multiplier et constituer un monde.
Et vous pensez à Foucault quand vous parlez d'infrarationalité de la sexualité, par exemple?
J'y avais pas pensé, mais si, oui, vous avez raison. J'y avais pas du tout pensé, évidemment, oui. Mais à toute une tradition, disons, qui est très ancienne, qui a fait de... Mais c'est pas la même chose que Foucault, car l'idée, c'est vraiment de revenir à un plan... l'idée fondamentale et la volonté fondamentale du livre, au fond, c'est de penser la rationalité comme une force cosmique et pas comme une force humaine. Et d'ailleurs, c'est ça l'idée fondamentale dans cette tradition qui faisait de la sémence l'incarnation parfaite de la rationalité. Au fond, la sémence est cette force qui permet de produire, comme un artisan produit un objet artistique, au même titre, une sémence est le lieu et les processus de production de quelque chose de rationnel.
S'il fallait mettre un isme sur votre travail, ce serait celui de vitalisme ou de spiritualisme, de matérialisme?
Ah, difficile. Peut-être plus matérialisme que le reste. Car la convention intime, c'est que tout est animé et toute matière est vie.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de votre livre.
Merci à vous.
Emmanuel Ecoccia, un vrai régal, bien au-delà. C'est non seulement un plaisir de lecture, mais c'est un trésor de pensée encore inexploré. La vie des plantes, une métaphysique du mélange aux éditions Rivage.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, Elles butinent leurs pistils pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles.
Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Géraldine Mosna-Savoie, devrais-je dire, et vous présenter, car comme tous les jours, vous venez à ce micro nous parler du journal de la philo. Donc, tout ce qui a trait à l'actualité philosophique, quelle actu a retenu votre attention aujourd'hui?
Alors, ça n'est pas vraiment une actualité philosophique, c'est autre chose, et j'ai une question à vous poser, Adèle.
Allez, ah, pour une fois que c'est dans ce sens.
Voilà, des Beatles, lequel préférez-vous, John Lennon ou Paul McCartney?
Je voue aux Beatles un culte qui ne pourra jamais s'abaisser, donc je suis incapable de choisir l'un des quatre.
Bon, peut-être à la fin de la chronique, aurez-vous choisi votre camp. On va parler de Paul McCartney, car hier est sorti en français une somme qui lui est entièrement consacrée. Et qui veut réhabiliter, après des années d'amour vouées à l'insoumis John Lennon, le gentil garçon de la bande, le trop gentil, le trop lisse, le trop normal et donc pas assez rocker, Paul McCartney.
Which do you prefer, mods or rockers?
Don't know. I like any of them. Mockers, I like. I think they're the best. No real preferences.
Why is it, Paul, that you're always described as the most intelligent one of the Beatles? Are you?
No, I'm not. No. Well, John's written a book, you know, so he must be more intelligent than me. Thanks. You've got to be intelligent to write books.
Paul McCartney, ou selon les dires de son ami John Lennon, le spécialiste des chansons de grand-mère et des histoires sur des gens emmerdants qui font des choses emmerdantes, dire tenaces de John Lennon qui ont eu leur succès mais qui depuis quelques années ont en fait sensiblement évolué. Et oui, comme en témoigne ce livre du critique rock du Times, Philip Norman, le conformiste du groupe serait devenu le plus cool des Beatles. Mais alors pourquoi? Depuis quand être conforme et conformiste est-il devenu plus séduisant et intéressant que l'anticonformiste? Paul McCartney aurait-il donc changé depuis toutes ces années, ou est-ce plutôt les années qui nous auraient changé, nous et notre rapport au conformisme? Eh bien, sûrement la deuxième option à écouter John Lennon. Ferrago qui disait que tu étais mort était vrai. Depuis que tu es parti, tu n'es plus qu'un souvenir, toujours sympathique, John Lennon. Dans sa chanson How Do You Sleep de 1971, il ne mâche déjà pas ses mots à l'égard de son ancien camarade, ce fils parfait, ce garçon idéal, bref, ce garçon normal que l'on ne remarque pas. Alors pourquoi désormais le remarquer? D'autant qu'il faut le dire, depuis Tocqueville et sa critique de la démocratie qui uniformise et nivelle nos mœurs, nous non plus, on ne mâche pas nos mots contre toute cette normalité, ce conformisme et Paul McCartney. Et c'est bien le paradoxe de cette critique, chacun d'entre nous le dit et chacun se ressemble à force de le dire. Et si alors Paul McCartney avait eu raison? Et s'il avait eu raison de ressembler à tout le monde, malgré tout le monde? « pourrais penser que les gens en auraient eu assez des chansons d'amour idiotes, mais je regarde autour de moi et je vois que ce n'est pas trop le cas. Certaines personnes veulent inonder le monde de chansons d'amour idiotes, et qu'y a-t-il de mal à ça? Mais oui, qu'y a-t-il de mal à inonder le monde de ces chansons? Qu'y a-t-il de mal à être comme tout ce monde? Paul McCartney en est l'exemple, que l'on commence du coup à suivre, mais Tocqueville pourrait en être l'esprit, car oui, on le cite toujours pour critiquer le conformisme, mais comment oublier que c'est d'abord lui qui en a fait le ciment de toute société, que c'est d'abord lui qui en a dit « Sans idée commune, il n'y a pas d'action commune, et sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. »
Le livre donc porte sur Paul McCartney.
Exactement, et c'est de Philippe Norman, ça vient d'être traduit aux éditions Robert Laffont, et c'est traduit par Pierre Régnier.
Merci Géraldine, on aura désormais une belle chanson d'amour dans la tête toute la journée. Cette semaine, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un poème lu par Georges Clès pour cette émission. Aujourd'hui, Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. En entier, s'il vous plaît.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les râleurs. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes râleurs, on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris pussent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marées énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et des lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévorés des punaises choient des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux claboudeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte confiture exquise au bon poète des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait taché de lunules électriques, planches folles escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémotes et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais, vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
C'était Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, lu par Georges Auclès. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Marianne Chassor, David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard, Alexandre Dang. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine sur Hitchcock, philosophé avec Alfred Hitchcock. Ce sera le programme. On parlera de La mort aux trousses, Sueur froide, Rebecca, et Psychose, un classique, en somme. D'ici là, pour réécouter ces émissions consacrées au philosophe américain Thoreau, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie et vous pourrez réécouter les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les comptes Facebook et Twitter de l'équipe où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve lundi à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.